pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Je me demande toujours assez souvent ce qu'un musicien, une musicienne, peut bien ressentir une fois sur scène en découvrant le public devant soi et si cette sensation est d'abord fonction de la taille du lieu et du nombre du public qui y aura pris place. J'aurais tendance à penser que ce qui importe avant tout pour l'artiste, c'est de présenter ce à quoi il a consacré sa vie durant des mois, voire des années, son travail donc, ses nouvelles compositions, à un ensemble de personnes qui les entendront pour la première fois. On le sait d'autant mieux depuis la crise sanitaire et ses effets sur le spectacle vivant. Alors jouer devant 50, 20 ou seulement 10 personnes, est-ce si différent que face à 1000, 2000 personnes ou davantage? Est-il nécessaire de disposer de lieux qui aient la capacité d'accueil de certains stades? Ce n'est pas avec un patron de club que nous allons parler de tout cela dans cette nouvelle et première jazz interview de la saison sur Art District Radio, mais avec une éminente personnalité de la scène jazz française, bien qu'il ne soit pas musicien. Il préside notamment une académie et programme le jazz pour ce vaste complexe unique en France et en Europe, qui concentre dans un très bel édifice bâti sur la fameuse île Seguin, ancien site des usines Renault à Boulogne-Billancourt, des espaces de concerts, d'expositions, de promenades, des restaurants, des commerces liés à l'art et à la culture. Il s'agit de la scène musicale. Et bonjour François Lacharme.
Bonjour Serge Mariani.
Vous allez bien?
Bon, écoutez, je goûte... Le début de l'arrière-saison bordelaise, et comme vous le savez, elle est toujours propice aux libations.
Ah bah oui, on est quand même début septembre, les vendanges voilà, ne vont pas tarder aussi.
Exactement, ça commence à se préparer. Voilà.
Voilà, et moi je le rappelle à l'occasion, puisque ce n'est pas la première interview que je réalise à distance, je suis en Turquie, dans la région d'Izmir, et nous sommes donc via la fameuse plateforme désormais Zoom, en communication pour cette jazz interview au cours de laquelle nous allons parler de jazz évidemment, de musique, de pas mal de choses parce que vous êtes, comme je l'ai évoqué rapidement, une personnalité importante s'il en est, dans le monde, j'ai dit la scène, le monde du jazz. J'ai dit que vous n'étiez pas musicien, j'ai absolument raison ou je me suis un peu trompé?
Non, mais en étant tout à fait franc, je suis un mauvais contrebassiste, mais le fait d'être un mauvais contrebassiste m'a permis de mieux comprendre toute la difficulté d'être un musicien d'abord, mais, et d'être un musicien de jazz en particulier. Donc, j'ai touché du doigt les difficultés. Et je vois le jazz, d'ailleurs, depuis lors, je vois le jazz d'une manière un peu différente. Cette franchise un peu naïve dont je vous fais part est en réalité pour moi un complément de mon outil de travail. Voilà, c'est une prise de conscience qui m'a été très utile.
Ah oui, mais c'est vrai, je pense que c'est très important. C'est difficile, je pense, de parler notamment de musique ou de peinture ou de cinéma sans avoir essayé d'y toucher un tant soit peu. Voilà. Pour cette première séquence, avant de parler, on va parler de vous, bien sûr, mais de la scène musicale en particulier, parce que depuis peu, la web radio pour laquelle nous faisons ensemble cette interview Art District s'est mise d'accord pour un partenariat au sujet de la programmation dont vous allez nous parler aussi un peu plus tard. Mais ce que j'aimerais que nous fassions pour commencer cette émission, François Lacharme, c'est, je vais profiter de votre culture, de votre expérience, que vous me disiez, vous me parliez un peu du qu'est-ce qui, selon vous, fait jazz à présent. Qu'est-ce qui fait jazz? On sait qu'il y a toujours, malgré tout, et en France peut-être en particulier, des débats sur « Ah oui, mais ça, non, on dit que c'est du jazz, mais ça n'en est pas. Elle, c'est pas une chanteuse de jazz, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. » Qu'est-ce qui fait jazz en 2021?
Bien malin celui qui pourrait répondre complètement à cette question. Je me pose la question tous les jours. On pourrait peut-être commencer, et là, ce serait probablement plus facile encore que par ce qui n'est pas jazz. Ce qui n'est pas jazz, c'est ce qui est enfermé, ce qui est trop prémédité, ce qui est monoculture, ce qui est xénophobe, ce qui est persil dans les oreilles, pour employer une expression que j'emploie souvent. Voilà, c'est une manière, une boutade, mais c'est une manière de dire ce que n'est pas le jazz. Aujourd'hui, ce qui pourrait être une définition du jazz, c'est le fait que, comme c'est une musique dont le langage n'a pas été complet, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, mais je risque quand même cette hypothèse, ou peut-être cette vérification, je crois que c'est une vérification. Le langage du jazz, il a été complet à partir, au début des années 60. Jusqu'au début des années 60, je pense que la syntaxe et la morphologie du jazz étaient encore en train de se construire. Mm-hmm. Et l'arrivée de Coltrane, Miles Coltrane, avant les soubresauts politiques et sociaux de ce qu'on a appelé rapidement le free jazz, Miles Coltrane, Bill Evans, je crois que ça a parachevé le langage du jazz tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de là, tout a été possible. Je veux dire par là que on a dit souvent que le jazz était une éponge, mais en même temps, il a été largement pillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a eu une sorte de conversation qui s'est installée entre le jazz et les musiques qui lui étaient contemporaines, encore aujourd'hui, si bien que même si beaucoup de réactionnaires, je dis ça sans nécessairement les flétrir, parce que oui. On a parfois raison d'être réactionnaire.
Ils réagissent, quoi.
Voilà, même ceux qui seront un peu plus puristes, disons, considèrent que le jazz est beaucoup trop dilué sous différentes formes, par exemple avec le rock, avec l'électricité, avec ce qu'on a appelé le New Age, avec les rythmes urbains et toutes les dérives et les conséquences esthétiques de ces mouvements-là. Je pense qu'il en a bénéficié aussi. C'est d'ailleurs pour ça que le jazz n'est jamais tout à fait mort. Quand j'entends des Cassandres me dire ouais, le jazz c'est fini, c'est mort, c'est pas tout à fait vrai. Une certaine forme de jazz qui a été pérennisée par ce que furent naguère les grandes stars comme je parlais de Bill Evans, de Miles, de Coltrane, mais plus proche de nous, les Getz, Michael Brecker, pourquoi pas, et quelques autres, j'en oublie forcément. Il est pas mort avec eux, vous voyez. Je pense que tout simplement, il correspond au fait qu'on peut picorer un petit peu partout aujourd'hui, tout en restant un musicien de jazz ou une musicienne de jazz, c'est-à-dire inventer. Ne jamais oublier que le jazz est une conversation, c'est-à-dire des identités qui se parlent. Absolument. Souvent en temps réel sur la scène. Vous vous souvenez, Sartre disait que le jazz c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. Mais c'est parfaitement vrai. Si on réfléchit bien, il avait mis le doigt dessus. C'est une musique de l'instant. Mais c'est aussi une musique qui n'a pas échappé à la nécessité de se trouver un univers de composition. Nous parlions hors micro tout à l'heure de Maria Schneider, qui est une grande compositrice.
Absolument.
Et également une chef d'orchestre, une arrangeuse, une orchestratrice. Donc, tout cela est lié de manière très, très forte. Et je pense qu'aujourd'hui, le jazz est très multiforme, il est très complexe. Tout en étant complexe, il s'est décomplexé, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de musiciens qui n'hésitent pas à utiliser le répertoire du rock. Je pense entre autres à Brad Meldo qui fait la moitié de ses concerts parfois
avec Radiohead, par
exemple. Le répertoire de Neil Young, le répertoire de Coldplay, de quelques autres. Bon. Sans que personne ne s'en offusque, parce que justement, ce sont des choses qui petit à petit sont parvenues, rentrées dans nos oreilles et ont façonné une manière d'écouter un peu différente. Et je crois que la manière d'écouter le jazz aujourd'hui est complètement différente. C'est générationnel, bien sûr, mais ce n'est pas que générationnel, c'est aussi une acculturation qui s'est faite petit à petit. On admet des choses dans nos oreilles qu'on n'aurait pas admises il y a encore quelques années, a fortiori quelques décennies. Et je trouve que c'est très vrai dans le domaine de l'art, et c'est très vrai en particulier dans le domaine du jazz. Il n'y a pas eu annihilation ou annulation d'effets contraires, mais il y a eu au contraire des phénomènes d'aimantation qui ont fait que aujourd'hui, on peut dire que le jazz, malgré encore une fois les commentaires parfois très négatifs ou un petit peu trop larmoyants que j'entends sur le sort de l'histoire du jazz, au contraire, moi je trouve que Le jazz, si on accepte une définition accueillante de ce mot-là, et se porte plutôt bien.
Ouais. Eh ben, on va le vérifier, et on le vérifiera en particulier avec la programmation jazz de la scène musicale, hein, dont nous allons parler plus en détail au fil de cette émission. Et pour illustrer aussi tout ce que nous venons de dire, ce que vous venez de nous détailler, je vous propose de faire une première pause avec l'un des choix que vous avez dont vous m'avez fait part pour cette émission. Elle sera dans le programme donc de la scène musicale. Elle s'appelle Erhel Besson. On la connaît quand même un peu. Elle est trompettiste et on va entendre. C'est pas le titre le plus récent de son album qui s'appelle Try, mais c'est un titre d'un précédent album qui s'appelle Radio One et donc éponyme. On écoute Radio One et on se retrouve ensuite avec vous, François Lacharme, pour la suite de cette jazz interview sur Art District Radio. C'était R.L. Besson, trompettiste de jazz, bien connu maintenant, qui interprétait ici Radio One, tiré de, donc, de son album également intitulé Radio One, choix premier dans cette jazz interview de François Lacharme, notre invité, avec lequel nous allons très bientôt parler de ce qui est aussi l'occasion de nous retrouver la nouvelle programmation jazz de la scène musicale. R.L. donc qui interprète, on ne peut pas dire, voilà, est-ce que c'est du jazz ou pas du jazz, c'est de la pop, pas de la pop. Elle fait venir, et ça c'est très intéressant, Isabelle Serling pour chanter sur ses compositions. Ça fait un petit peu penser à un autre duo féminin très intéressant, bien connu aussi maintenant, qui est celui de Anne Passeo, la batteuse et compositrice, et la chanteuse ou non-chanteuse de jazz, Leïla Martial. On a là des pôles, je dirais, de créativité musicale qui sont en plus féminins. Et qui vont être illustrés dans la programmation de la scène musicale, notamment, que nous verrons plus en détail avant la fin de cette émission, of course. Je voudrais consacrer cette deuxième séquence à votre personnalité, à votre parcours, à un champ de compétences et d'expérience que vous avez, qui est assez quand même remarquable. Vous êtes en effet un acteur incontournable, on peut le dire, de ce qu'on peut aussi appeler l'écosystème musico-jazzistique en France en particulier, mais j'ai vu aussi dans votre CV que vous aviez conseillé Herbie Hancock lorsque l'année internationale du jazz a été lancée sous l'égide de l'UNESCO, etc. Vous êtes boulimique de faire connaître, apprécier par tous les moyens possibles, c'est-à-dire la presse, les émissions de radio-télé, les événements, de faire connaître cette musique, c'est plus qu'une passion, c'est une mission que vous vous êtes donnée.
Alors, c'est intéressant parce que là, vous faites la réponse quasiment à ma place. Non, mais tout y est. C'est-à-dire que moi, je suis tombé dans la potion magique du jazz très jeune. Mon père était un industriel occupé, mais on était entouré de musique vivante aussi parce qu'il jouait plusieurs instruments. Des musiciens venaient faire le bœuf et on était très très proche du phonographe familial, autant pour la musique classique d'ailleurs que pour le jazz. Donc moi, mes premiers émois musicaux, ils ont été clairement vers l'âge de 4-5 ans autour du jazz. Mission, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire qu'il m'a toujours semblé que le jazz, c'était une musique qui rassemblait à la fois un état d'esprit et une manière de vivre qui m'a toujours intéressé et même fasciné. C'est-à-dire une forme de liberté, une culture. On dit pas assez souvent que le jazz c'est une culture. C'est-à-dire pas simplement des musiques. C'est peut-être aussi un mode de vie. C'est une manière de communiquer avec l'autre. C'est laisser la place au non-dit. C'est admettre qu'il y a des choses qu'on peut pas verbaliser et qui peuvent éventuellement susciter une émotion par les sons, la musique, etc. C'est une manière de tolérer aussi. Je trouve que c'est une grande école de la tolérance. Absolument. Et surtout, j'ai toujours été très énervé, je peux dire, irrité par le fait qu'une musique aussi riche et aussi importante finalement pour on peut le dire, hein, pour le développement des personnalités qui s'intéressent à la musique, à l'art en général et à la musique en particulier, j'ai toujours trouvé curieux et scandaleux qu'il n'y ait pas de place suffisamment importante consacrée au jazz dans les grands médias. Alors, il faudrait que je nuance ce que je viens de dire, parce qu'il y a eu des périodes où le jazz a été plus en cours, d'autres, il a été moins en cours, mais ce qui est certain, c'est que dès qu'on parle des masses médias, le jazz est considéré comme une sorte de coquetterie pour intellectuels barbus et vieillissants, pour ne pas dire cacochim, et que ça passera dès lors que tout le monde sera 6 pieds sous terre, ce qui est évidemment, en vertu de la conversation qu'on a eue auparavant, n'est pas vrai. Ça m'a motivé pour aller plus loin. Alors, c'est passé par la presse, c'est passé par aujourd'hui beaucoup par la radio sur FIP, passé par la télévision sur Paris Première, l'organisation de concerts. Je me suis occupé de clubs.
C'est une belle expérience, n'est-ce pas, François Lacharme? Les clubs.
La radio. Ah oui,
les clubs. La radio, bien sûr. Ben ça, je ne veux pas démentir.
Les clubs, c'est irremplaçable parce que le jour où j'écrirai mes mémoires, vous allez halluciner. Mais c'est vrai que c'est le terreau sur lequel se font les choses. Hein.
Bien sûr.
Le club, c'est l'expérimentation. On se rend compte, il y a le bœuf.
Voilà.
Alors aujourd'hui, ça s'est un peu apaisé, mais c'est toujours dans le club que se font, je trouve, que les grands projets se fomentent et que les identités s'affirment face au public et dans la confrontation amicale avec les autres musiciens. Donc, c'est irremplaçable. Voilà. Et c'est là qu'on est confronté à des réalités qui sont bassement économiques.
Oui, bien sûr.
Chaque format, si je puis dire, de lieu de diffusion pose une problématique économique. L'apprentissage de la gestion d'un club, justement, est extrêmement riche de ce point de vue. Alors, à la fois, ça éclaire, ça explique beaucoup de choses, et en même temps, ça vous exhorte à aller plus loin, à voir un peu plus grand, pour pouvoir, justement, à la fois mieux servir les musiciens que vous souhaitez présenter,
bien sûr,
mieux les payer, les faire jouer dans des conditions dignes, même plus que dignes, et en même temps c'est une manière de respecter le public. Si je peux m'enorgueillir de quelque chose, c'est d'avoir incité des musiciennes et des musiciens à franchir le cap vers la grande salle. Je me souviens notamment de Yun Sun-na dont j'avais eu par personne interposée la première petite cassette enregistrée où elle avait fait une petite maquette sur des standards de jazz. Elle avait une voix extrêmement intéressante, très très juste. À l'époque, elle était dans ce qui était autrefois le CIM, c'était la première école de jazz en France, rue Doudeauville. Alors, il est évident que Yun Sun-na, à l'époque, elle avait choisi une voix qui ne serait pas la sienne, mais elle ne le savait pas encore. Elle faisait des standards de jazz, mais ce n'était pas son truc. Elle naissait dans sa tête d'autres idées d'émancipation. Et quand je lui ai proposé de faire le Châtelet, je l'ai un peu piégé. Je lui ai dit, il faut que tu fasses une grande salle maintenant. Tu es prête, allons-y. Elle était un peu hésitante. Voilà. Et finalement, ça s'est fait et ça a été un concert magnifique. Je pourrais dire à peu près la même chose avec Brad Meldo quand je l'ai tanné pendant un an et demi pour qu'il fasse une œuvre symphonique. Il disait, je ne suis pas prêt. Mais en fait, il était prêt sans tout à fait le savoir. On a fait une grande première sur une œuvre de concerto en quelque sorte pour piano et orchestre symphonique. Voilà, c'est le passage à l'autre étape. Alors, je ne dis pas que pour un musicien de jazz, jouer avec un orchestre symphonique, c'est le Graal. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est l'inverse qui se produit. Il faut faire très attention. Ça peut être un miroir aux alouettes, mais ça peut faire partie pour un musicien d'un parcours fléché. Donc voilà, les différents dimensionnements des lieux de diffusion appellent des logiques commerciales différentes et appellent aussi une approche artistique différente entre celui qui dirige le lieu de diffusion et les musiciens ou leur manager. Moi, je suis très attaché, par exemple. Je parlais du jazz comme étant une musique de conversation. Moi, je trouve que c'est très important que le jazz reste une musique de rencontre, c'est-à-dire où un groupe ou un musicien, entre guillemets, installé ou réputé tel, puisse prendre le risque d'inviter une personnalité qu'il n'a pas rencontrée ou un musicien passionnant qui n'a pas eu le temps de rencontrer. En ce sens-là, j'ai un petit côté un peu sage-femme, un peu accoucheur, quoi, vous voyez. On essaye d'accoucher, de prouver. C'est pas toujours facile parce qu'il y a
c'est
des
passionnant.
Mais c'est passionnant parce que quand ça marche, c'est génial. Voilà.
Ah oui. Alors je prends l'occasion pour annoncer la pause musicale qui suit puisque vous avez évoqué Yun Sun-na. On va entendre Vincent Perani et Émile Parisien l'un de vos choix pour ces pauses musicales dans cette interview. Et vous les avez peut-être sans doute vus sur scène ensemble. Je me souviens, moi, d'avoir vu un concert où Yun Sun-na avait justement invité à l'accompagner Vincent Perani, donc accordéoniste désormais aussi bien connu et célèbre, qui fait notamment du jazz, bien entendu. Et là, on va l'entendre dans son fameux duo aussi avec Émile Parisien, et chacun dans leur genre, et ensemble en particulier, on peut dire qu'ils qui bouscule le genre aussi et la façon d'interpréter aussi bien les classiques, les standards que de leur propre composition. Là, on va les écouter dans un standard, on peut dire, Egyptian Fantasy, qui est de composition de Sidney Bechet, et tiré de l'album Belle Époque, donc Vincent Perani et Émile Parisien, avant de prolonger et terminer avec une dernière séquence, cette jazz interview avec François Lacharme. Vincent Perani, Émile Parisien, Egyptian Fantasy.
Thank you.
Egyptian Fantasy, c'était la version de Vincent Perani et à l'accordéon, bien sûr, et d'Émile Parisien, au saxo, clarinette, enfin, je ne sais plus exactement de quoi il joue dans tout ça.
Probablement du sax-soprano là-dessus, si je me souviens bien.
Tiré de l'album Belle Époque, je ne crois pas qu'il soit programmé pour la nouvelle saison de la scène musicale que vous avez concoctée pour ce lieu, haut lieu maintenant, du jazz aussi, hein, pas seulement, hein, la scène musicale avec son très très grand espace, scène, je sais plus, il y a un nom spécial pour la scène, pour la grande salle de 5 ou 6 000 places. Mais je pense que la grande scène, et que les concerts de jazz sont peut-être plus particulièrement dans l'autre espace qui est assez grand aussi, qui s'appelle l'auditorium.
Les deux seuls concerts sous ma gouvernance, si je puis dire, qui auront lieu, en tout cas pour le moment programmés à la grande scène, sont Marcus Miller et Gregory Porter.
Voilà, donc la programmation jazz que vous avez imaginée pour la scène musicale, on va en parler un peu plus maintenant. Alors, il y aura, n'est-ce pas, R.L. Besson. Et puis la chanteuse Cyrille Aimé, qui elle invite alors une autre trompettiste qui est un phénomène un peu, hein, qui vient du classique mais qui avait aussi appris le jazz dans sa région d'origine, vers le Mans, je crois.
Il s'agit de Lucienne Renaudin-Vary, que j'ai eu l'occasion de découvrir sur une vidéo de Marciac, Festival de Jazz in Marciac, et j'ai été très séduit par cette fraîcheur, par cette manière de rentrer dans la substance du jazz, de chorusser. Et je l'ai déjà invité d'ailleurs pour un hommage à Michel Petrucciani avec un groupe international. Et là, je trouvais l'idée très séduisante de la faire rencontrer la pétillante Cyrille Aimé, qui connaît bien la France, qui connaît bien le jazz manouche, puisqu'elle a fait à plusieurs reprises le festival de Samois-sur-Seine, mais qui, me semble-t-il, représente dans l'art vocal aujourd'hui une vraie personnalité, avec beaucoup de fraîcheur, un côté un peu mutin et une grande justesse dans la voix. Et la rencontre de ces deux personnalités me semble assez porteuse. Donc, ce sera la première fois qu'elles se produisent ensemble sur scène. Et il faut rappeler que Lucienne Renaudin-Vary, vous l'avez dit, mais c'est très important de le dire, c'est d'abord une grande interprète des concertis de trompette classiques. Mais elle est aussi très à l'aise dans le répertoire dans le répertoire brésilien, par exemple, et de plus en plus dans le jazz. Voilà. Donc, je suis très très impatient de constater ce que va être cette rencontre à la scène musicale.
Voilà. Et comme elle est toute jeune, je pense qu'en effet, ça va évoluer de façon très intéressante dans cette double direction classique et jazzistique. Alors, je vous laisse enchaîner avec le reste de la programmation, François Lacharme.
Juste avant ces deux concerts, d'ailleurs, il est peut-être bon de rappeler que nous allons célébrer les 40 ans de carrière de ce guitariste
Pirelli.
Naturel. Enfin, j'ai pas suffisamment de qualificatifs pour dire à quel point j'admire ce musicien, parce que c'est un vrai musicien naturel, spontané, et il est tout à fait ébouriffant. Si le mot génie peut s'appliquer à un musicien aujourd'hui, je pense qu'il pourrait s'appliquer sans trop de difficultés à Birelli. Donc, nous avons mis en place un trio de guitares, avec bien sûr Birelli, Thomas Dutronc qui a accepté de venir, peut-être pas que faire la pompe d'ailleurs avec Birelli, et Sylvain Luc, autre guitariste assez prodigieux quand même, avec lequel j'ai des atomes crochus par l'élan dès le Pays Basque, mais qui est tout à fait ébouriffant aussi lorsqu'il l'improvise sur son instrument. Donc ça va être un concert qui est très important. C'est d'ailleurs le concert qui ouvre la saison 21-22. Un petit peu plus tard, je vous cite ça dans le désordre, c'est le trompettiste sarde Paolo Fresu, le percussionniste Trilok Gurtu, et le pianiste et claviériste cubain, bien que vivant à Barcelone, Omar Sosa. C'est un trio magnifique.
Ah oui, oui.
Voilà. Je ne veux pas nécessairement me payer de qualificatifs ou de substantifs, enfin, en tout cas, de termes un peu trop élogieux, mais c'est vraiment un trio qui m'a beaucoup marqué. Dans le domaine appelons ça du néoclassicisme, ceux qui aiment le piano selon les j'allais dire les normes, en tout cas les grandes figures tutélaires du piano jazz, que ce soit Hank Jones, Tommy Flanagan, Oscar Peterson, ou plus proche de nous, Herbie Hancock, Monty Alexander, etc. Vous avez ce jeune pianiste, très très jeune d'ailleurs, parce qu'il n'est même pas majeur aujourd'hui, Joey Alexander, oui, qui a tapé dans l'oreille de Herbie Hancock il y a quelques années, qui viendra avec son trio faire un concert à la scène musicale. Bon, ça, c'était un concert reporté de l'an dernier à cause de la pandémie. Peu de temps après, on aura ce groupe vocal dont la publicité s'est faite notamment grâce à Quincy Jones et Al Jarreau, parce qu'ils ont dit tous les deux et en même temps que c'était le meilleur groupe vocal de tous les temps. J'ai tendance à dire aussi que c'est vrai, parce que j'ai eu l'occasion de les programmer il y a quelques années au Châtelet, et je les avais entendus sur plusieurs festivals. C'est Take Six, donc c'est 6 musiciens noirs américains qui chantent a cappella. Les arrangements vocaux sont complètement inouïs. Et pour ne rien vous cacher, j'espère établir sur le moyen long terme à la scène musicale une relation artistique avec Take Six, puisque mon objectif, c'est de les faire venir chaque année avec un projet musical différent.
Je profite de faire une parenthèse sur le fait que dans le cadre du partenariat là, établi entre Art District Radio et la scène musicale, il y a à compter de cette semaine et chaque mois il y aura une nouvelle playlist, la playlist de la scène musicale, et chaque mois avec des artistes différents, et on peut découvrir une grande partie, on peut entendre ou réentendre une grande partie des musiciens que vous avez cités dans cette playlist qui est en ligne ce mois-ci sur la web radio.
J'ai compris qu'elle ne peut pas être mauvaise.
Donc... elle est pas, ça va, oui. Absolument. Et donc, il y a Texix, évidemment. Alors, là, on a. C'est bon, François Lacharme, on a fait le tour de la programmation pour cette saison.
On a parlé de Vincent Perani avec cette rencontre qui a également été fomentée par Vincent et moi-même. Parce que je crois que c'est vraiment un autre trio sommet, première fois sur scène ensemble, de manière officielle. En tout cas, Vincent Perani qui rencontrera le pianiste d'origine arménienne Tigran Amassian et le guitariste franco-béninois. Qui lui aussi avait tapé dans l'oreille et pas qu'un peu de Herbie Hancock, puisqu'il l'a pris sous son aile pratiquement immédiatement, qui est le guitariste Lionel Loueke.
Ah oui,
donc on va avoir un trio complètement inédit qui va se produire dans la première quinzaine de décembre. Et là, je pense aussi qu'on va avoir de très belles surprises musicales. Par la suite, eh bien, au gré du calendrier, Avishai Cohen, le contrebassiste et chanteur, qui va présenter son album « Two Roses » avec orchestre symphonique, donc l'Orchestre national d'Île-de-France sera là. Un petit peu plus tard, j'aurai le plaisir d'accueillir ce contrebassiste qui est aujourd'hui un peu la coqueluche de tous les grands, y compris d'ailleurs en dehors du jazz, qui est Chris McBride, qui est à la fois un grand virtuose de la contrebasse et de la basse électrique, mais aussi un homme délicieux, un penseur du jazz, quelqu'un qui a cultivé à sa manière les racines, qui s'est penché sur l'histoire du peuple africain aux États-Unis, sur l'histoire de l'esclavagisme, etc. C'est un phare, à mon avis, pour une génération de musiciens, et en même temps qu'un formidable leader. Et là, il viendra avec un groupe acoustique qu'il a reformé. C'est un groupe qui existait dans les années 2000 et qu'il a reformé pour une tournée. Et je voulais absolument présenter en petite formation donc Chris McBride et ses musiciens. Peu de temps après, donc au printemps prochain, nous aurons John McLaughlin, rien que ça.
Bien sûr.
Et alors, le guitariste John McLaughlin, pour moi, c'était un peu une grande frustration parce que à chaque fois que j'ai voulu travailler avec lui sur un projet, il n'était jamais libre.
Ouais.
Donc, c'est un des rares musiciens de sa génération avec lequel je n'ai pas pu travailler. Et là, je vais combler cette lacune puisque, pareil, référez-vous au programme de la scène musicale, au site de la scène musicale, et vous pourrez avoir de plus amples renseignements sur chacun de ces concerts et les dates, bien évidemment.
Absolument, sur le site de la scène musicale en particulier, aussi sur Art District Radio, dans le cadre de ce partenariat. Je refais une parenthèse, puisque François Lacharme, vous êtes président de l'Académie du Jazz. On voit là que l'Académie, c'est juste un mot, hein, parce que c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler un programme académique, hein, dans le sens un peu clin d'œil péjoratif presque du terme.
C'est assez amusant que vous releviez ça, parce que j'ai toujours dit que l'Académie du Jazz était l'association la plus anti-académique qui soit, s'agissant de défendre les musiciens de jazz et de décerner des trophées, des récompenses, notamment le prix de Django Reinhardt qui couronne le musicien ou la musicienne français ou française de l'année.
Absolument.
Et c'est vrai. Et de toute façon, il suffit de se pencher sur l'histoire de l'Académie pour voir que quand vous avez un Jean Cocteau, un Boris Vian, un Becker, un Yves Montand côtoyant un Martial Solal, un Maurice Culaz, et j'allais oublier celui qui m'a précédé à la tête de l'Académie, un Claude Carrière, ça ne peut pas être une Académie académique.
Voilà.
Donc la nuance a été apportée par vous et vous avez bien fait.
Ah, merci. Voilà. François Lacharme, on va se dire, on va se quitter, on va se dire au revoir. On invite à nouveau tout le monde, le plus maximum de monde à se rendre dans les très belles salles de la scène musicale à Boulogne-Billancourt, comme je l'ai dit. Hein, on trouve facilement le site sur Internet, toutes les coordonnées et les infos pratiques pour s'y rendre. Et on va se dire au revoir en musique, évidemment, avec un autre de vos choix. On l'a cité, évidemment, dans la programmation de la scène musicale. Il s'agit de Avishai Cohen. C'est vraiment un projet aussi... typiquement, j'oserais dire, taillé pour un espace comme la scène musicale, hein, un soliste de jazz hein, mondialement réputé qui compose aussi pour et joue avec un orchestre symphonique. Donc là, certainement aussi une magnifique soirée de musique et de jazz à la scène musicale. Voilà, donc on va se dire au revoir avec ce titre, Two Roses. Il y a beaucoup de titres éponymes dans cette émission, oui. J'aime bien ça. Les titres éponymes, Two Roses, de l'album Two Roses, d'Avishai Cohen, l'un des artistes programmés donc, par François Lacharme à la scène musicale. François Lacharme qui était notre invité dans cette jazz interview sur Art District Radio. Voilà, François Lacharme, au revoir.
Et, au revoir, Frère Mariani, et longue vie à District Radio.
Merci.
Je sais pas comment il faut le dire d'ailleurs, il faut le dire à l'anglaise ou à la française. Mais
oh, district. Oui, Art District, ça va très bien. Art District Radio, voilà.
Art District.
Merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Wild.
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein. C'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.